Le premier truc sur lequel je veux revenir, c'est ce que tu dis, c'est il y a plein de boîtes qui traquent l'output, donc le MB, enfin le meeting, peut-être le taux de close zone, enfin voilà, le nombre de deals acceptés par les AE. Ça, c'est très bien et c'est important puisque c'est ta perf. Donc, il faut que tu saches où t'en es, il faut que tu saches ton forecast, etc. Mais par contre, là, c'est pas du tout prendre en compte que, en fait, tes BD, c'est des humains et qu'ils ont besoin de ton aide, qu'ils ont besoin de formation. Si tu prends pas tes meetings, c'est pas que t'es mauvais. C'est qu'il y a un truc, effectivement, sur lequel on doit bosser. Et lui, il sait pas. Sinon, il aurait déjà bossé et il serait meilleur. Donc, en fait, là, c'est à quel point ta vision du manager, elle est « j'accompagne mes équipes » ou « j'attends de la performance ».
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Hello, du coup aujourd'hui j'accueille Margot Hervé qui est Team Lead BDR chez Spendesk. Je l'ai invitée pour qu'on aille beaucoup plus loin sur la partie prospection et qu'on voit effectivement comment on peut aller pousser ses équipes encore plus loin pour atteindre ses objectifs dans un contexte où c'est compliqué aujourd'hui d'aller prendre des rendez-vous et d'aller chercher du business. Et donc du coup on va rentrer vraiment dans le détail sur à la fois les process de prospection, sur comment analyser bien la data et prendre des bonnes décisions, et surtout aussi également mettre en place les bons moteurs de motivation pour engager sa team. Salut Margot, comment tu vas?
Salut Tia, sacré programme aujourd'hui. Yes. Je suis hyper contente d'être là, donc merci pour l'invite.
Bah écoute, je suis très contente de t'accueillir ici. Tu es la deuxième personne de Spendesk à venir ici. Enfin, en tout cas, la personne Adeline était ex-Spendesk. Toi, tu es en plein dedans. Du coup, bah, effectivement, ce que j'aimerais qu'on fasse, parce que moi, je te connais un petit peu, j'en ai discuté, c'est que tu présentes rapidement ton background et qu'est-ce qui t'a fait venir à Spendesk et ce que tu fais actuellement. Voilà.
Ok, carrément. Donc moi, c'est Margot, j'ai 30 ans, ça y est, j'ai passé la trentaine.
Yes.
J'ai une formation de sales, mais plutôt sales grande distrie de base, donc j'avais rien à faire sur le SaaS et la partie un peu startup scale-up. Mais un switch en fin d'études où je suis partie directement sur une startup food tech, où là, j'ai fait 2 ans de full stack, donc prospection, closing, entretien des comptes pendant 2 ans. Okay. Et ensuite, j'ai rejoint vraiment cette aventure Spendesk sur la partie prospection. Moi, c'est ce que je préfère aujourd'hui dans la vente. Donc, j'avais vraiment envie de me spécialiser là-dessus. Et du coup, j'ai intégré la boîte en tant que BDR senior. Donc, nous, c'est vraiment la partie outbound quand on parle de BDR. SDR pour la partie inbound. J'ai fait ça quelques mois et après, je suis passée manager d'abord sur des BD en direct. Et aujourd'hui, j'ai donc des BD en direct, mais aussi des managers qui, eux aussi, ont leurs propres équipes.
Ok, donc, trop cool. Donc, voilà, en fait, ton truc, c'est vraiment la prospection. Et pourquoi en fait? Ouais. Si rapidement, pourquoi?
Bah, sans prospection, il n'y a rien. Donc déjà, c'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est là qu'on va pousser le plus de portes et qu'on va devoir être techniquement et en même temps, je ne sais pas si c'est le mot, mais il va falloir être un petit peu filou et il va falloir jouer avec les règles et pousser ses portes. Ce que je faisais en grande distrie de façon physique, bah, maintenant je le fais par téléphone. Et c'est pour moi ce qui m'excite le plus et ce qui m'apporte le plus de...
Ça, trop cool. C'est tellement rare que je pense que les gens vont t'appeler après direct. C'est tellement rare. Ok, très bien. Bah, du coup, juste pour que les gens puissent avoir le contexte, parce que j'aime bien que les gens puissent avoir vraiment le contexte, parce que généralement, quand on donne parfois des informations, des chiffres ou des résultats, etc., sans le contexte, ça ne veut pas grand-chose dire. Et puis, du coup, voilà. Donc, est-ce que tu peux rapidement présenter justement ta team? Tu as dit que tu manageais des gens en direct en BDR, mais aussi des sales managers. Comment elle est construite ta team? Aussi, me donner peut-être des objectifs aujourd'hui que tu leur donnes. Et voilà, peut-être la cible aussi.
Donc, Spendesk aujourd'hui, c'est, j'espère que tout le monde connaît, c'est ce SaaS qui va centraliser les dépenses en entreprise. Donc, on est vraiment en B2B et on a 7 ans. Donc, les équipes sales ont explosé là sur les 5 dernières années. On recrutait tous les mois plusieurs personnes côté BDR et SDR. Et aujourd'hui, on est une cinquantaine de sales, donc sur la partie acquisition, avec une trentaine de BDR. Une petite dizaine de SDR sur la partie inbound. Et aujourd'hui, moi, dans mon équipe, j'ai 2 managers juniors qui vont avoir leurs propres équipes, entre 3 et 7 BDR chacun. Et okay. Moi, j'ai gardé en direct 3 BDR qui sont plutôt sur des niveaux, on va dire, middle senior, avec lesquels je vais plus travailler justement de la motivation, de l'engagement et de la rétention, entre guillemets, au niveau des sujets people, plus que de l'onboarding ou de la formation junior, quoi.
Ok, d'accord, très cool. Alors du coup, toi, en fait, justement, je vais te poser une question qu'on m'a déjà posée. À ton avis, toi, aujourd'hui, un manager BDR, il peut gérer combien de gens en direct? C'est assez important, je pense, de se dire c'est quoi la taille critique où à un moment donné, après, il fait n'importe quoi, il ne suit plus personne et on a des gens qui sont en fait en roue libre.
Ouais, ça on l'a testé. Dans tous les cas, il faut déjà partir sur est-ce que c'est un manager qui fait que du management ou est-ce que c'est un manager qui a un portefeuille aussi individuel.
Yes.
Chez Spendesk, on a fait le choix de se dire t'es manager, et ton focus c'est ton équipe et t'as plus de portefeuille individuel. On a aussi des player coach qu'on appelle qui sont entre les deux, avec moins de personnes à gérer, mais un petit portefeuille quand même où on va aller chercher des opportunités. C'est hyper dur de faire la part des choses parce que t'as envie de manager, t'as plus envie de faire de la prospection, mais en même temps on a encore besoin de ce quota entre guillemets, donc c'est assez difficile. Pour répondre à la question sur le nombre de BDR, on a vu nous un seuil critique à partir de 7-8 où l'accompagnement en tout cas qu'on donne chez Spendesk ne te permet pas d'en avoir plus parce que, et je te donnerai plus de détails si tu veux, mais on a des one-one individuels par semaine qui durent 45 minutes, on a des trainings individuels par semaine qui durent 45 minutes, donc c'est déjà une heure et demie en one-to-one. On va avoir des écoutes de call, on utilise Mojo, c'est un super outil, je leur fais un peu de pub, mais du coup c'est super aussi chronophage pour le manager d'écouter tout le monde toutes les semaines. On va avoir des collectifs training, donc en fait il y a beaucoup de formations. Si tu as plus de 8 personnes, tu satures et en fait tu vas plus le faire de façon assez efficace, ou alors tu vas déprioriser des personnes, et souvent on dépriorise les top perfs, ce qu'il faut pas faire, parce que c'est des top perfs qui ne sont plus de top perfs demain, et du coup bah tu perds tout.
Ok, nickel. Bah, en tout cas intéressant, et je trouve ça un très très bon move d'avoir choisi de dire t'es manager et tu t'essaies pas de faire tout, parce que celles qui le font généralement elles se plantent, ou en tout cas il y a toujours en fait des problèmes. Une question justement qui me vient et qui n'était pas prévue, mais en fait justement qui par rapport à ce que tu me dis, et tu parles de... En fait, il y a beaucoup de mélanges en fait, des genres de SDR, BDR, etc. Tout à l'heure, tu l'as précisé, BDR, c'est l'outbound, c'est le fait d'aller chercher des opportunités en fait, de gens qui ne te connaissent pas a priori, je précise pour... voilà. Moi, ce que j'aimerais juste savoir, c'est quoi leur périmètre, c'est quoi la limite, c'est quoi ? Ils font toute la découverte et ensuite, ils filent le petit prospect chaud et finalement...
Peut-être chaude, oui.
Voilà. En étant caricaturel, l'AE, il a juste à faire ses petits coups de claquette et c'est signé. Ou on est un peu plus en amont, c'est juste, en fait, je chope des rendez-vous et l'AE, il se débrouille vraiment.
Alors, on est plutôt sur la phase 1, enfin, l'exemple 1 que tu donnes chez Spendesk. Aujourd'hui, on n'a pas de sectorisation. Par contre, on va travailler sur des tailles de deal. Donc, on a une équipe qui va faire tous les collaborateurs, enfin, toutes les entreprises qui ont moins de 150 collaborateurs, et une autre équipe qui va faire le plus de 150 collaborateurs. Donc, ça, c'est juste pour te montrer un peu la distinction. Donc, on n'a pas tant de différences de cycle de vente que ça. Et ensuite, à l'intérieur, ça va être effectivement le call-call. On va avoir du LinkedIn, du mail. On va travailler avec SalesLoft sur la partie prospection. Donc, on a des cadences, des séquences qui sont faites avec cet outil. Le BD va partir d'un prospect froid. Premier call-call, hello, j'essaie de te convaincre d'en savoir plus sur Spendesk. Parce que X, Y, pareil, on pourra détailler si tu veux la partie call-call. Et là, du coup, c'est le premier rendez-vous fait par le BD. Avec un call de qualification qui dure entre 30 et 45 minutes. On va assez loin. Plus on est senior et plus on va sur une phase de discovery aussi. Donc, le but, c'est d'inciter nos gars à se former et à se développer. On dit souvent qu'un bon BD chez Spendesk, c'est un AE moyen dans une autre boîte. Donc, c'est aussi super, super intéressant pour eux.
Yes.
Mais aussi, du coup, attention, parce qu'on ne peut pas faire tant de volume que ça avec beaucoup de qualité. Donc, c'est comment on met cette jauge-là. Et du coup, une fois que la qualification est faite, on a des critères à respecter pour valider cette opportunité, qui va être validée par l'AE in fine, mais avec des critères. Donc, ces critères, on les connaît. Et donc là, c'est l'AE qui récupère. On a tout un process de handover qui doit être fait avec l'AE. Et ensuite, le BD peut suivre son deal, peut aller sur les autres rendez-vous, mais en soi, il n'a plus grand-chose à apporter, à part juste pour sa curiosité, quoi.
Ok, très cool. Bah du coup, on en parlera de ce truc juste pour sa curiosité, mais je pense qu'il pourrait peut-être l'aider aussi également à être peut-être meilleur en BD. Ok, du coup, ce qui est très cool, c'est que c'est hyper riche, donc on va pouvoir en fait un peu parler de process de prospection et de parler en fait de ce qui pose pas mal de problèmes aujourd'hui à la majorité des gens. On l'a dit, je vais le faire en très très court, de plus en plus compliqué aujourd'hui de prospecter, d'avoir des approches. L'outbound, c'est terrible, en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, chez Spendesk, vous vous débrouillez plutôt pas mal. Est-ce que du coup tu as parlé des canaux, est-ce que tu peux parler justement quelles sont vos approches? Alors tu as parlé de séquences, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu là-dedans. Tu mets du mail, tu mets du cold call, du LinkedIn, comment est structurée une séquence déjà, et puis ensuite peut-être rentrer plus dans les détails de ton approche en parlant de Spendesk, hein, tout simplement.
Ok, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est déjà on a un panier moyen qui n'est pas hyper gros chez Spendesk. On va parler de petits deals, c'est avec du MRR, donc c'est sous format d'abonnement. On va avoir une vélocité assez courte, on a une vélocité de 30 jours. Donc en fait, on va être plutôt sur des cadences assez courtes qui vont être, on va aller sur du 16-18 jours. avec des steps soit qui vont s'enchaîner tous les jours avec différents canaux. On va faire un mail, puis un LinkedIn, puis un call deux jours après. Donc, on va avoir une récurrence assez forte. Mais le but, c'est de se dire, je teste ce prospect. Si en fait, au bout de 15 jours, j'ai rien, ça est qualified et je prends un nouveau dans mon pipe. Donc vraiment, on va essayer aussi d'avoir une rotation du pipe qui est assez, assez véloce puisque notre cible aujourd'hui, elle est très large. C'est toutes les boîtes qui ont des dépenses. Donc en fait, tout le monde.
Ok, c'est tout le monde.
Donc le but, c'est vraiment d'aller aussi chercher et de mouliner, de faire de l'évangélisation, faire de l'éducation de marché. On sait que souvent, on ne signe pas le premier coup. On va signer peut-être le prospect a vu notre démo. 6 mois après, on le rechasse et c'est plutôt à ce moment-là qu'il va signer parce qu'en fait, le cheminement s'est fait aussi dans sa tête.
Ok.
Donc le but, on va pousser les bidières à faire du volume, pas hésiter à disqualifier les comptes si besoin. Et donc les séquences, c'est effectivement entre 2 et 3 semaines avec surtout call, du LinkedIn et du mail. On n'est pas très bon au mail, on va en faire quand même pour justement laisser des traces, apporter peut-être de la valeur, des articles.
En fait, pour vous, le mail, c'est un peu le prétexte pour vos cold calls.
C'est un peu ça. Après, on n'a pas non plus l'approche de « bonjour, je vous appelle parce que je vous ai fait un mail et je n'ai pas eu de retour ». Ce n'est pas vraiment l'approche call-call-call-là. Mais on se dit, on va travailler le multicanal. En fait, c'est peut-être de dire « il m'a vu sur LinkedIn, il m'a vu dans sa boîte mail, peut-être qu'il y aura plus d'écho quand je vais l'appeler okay. ». Donc, on ne va pas vraiment se baser sur le contenu, mais plus sur… c'est des coups de coude qu'on va faire un petit peu partout.
C'est l'idée des top of mind et de se dire « en fait, cette personne, je la vois tout le temps et j'ai un besoin et donc, allez, pourquoi pas, je vais craquer et je vais répondre ». Ok.
C'est ça.
Et du coup, et sur LinkedIn, le call-call
juste sur LinkedIn, on n'est pas assez bon. Mais là, j'ai envie de dire à tout le monde, genre, faites du LinkedIn parce qu'en fait, on sait que c'est ça aussi qui fonctionne. Okay. C'est les vidéos, les messages vocaux. Tout le monde dit, c'est la nouvelle tendance et tout le monde le fait. Mais en fait, personne ne le fait réellement et avec des gros volumes.
Et donc, pourquoi, ton avis ?
Parce que c'est hyper chronophage et moi, mes gars aussi me le disent, c'est super long d'envoyer un message vocal alors que ça marche. On a souvent des réponses.
Et ça donc, marche les messages vocaux. Je te pose vraiment la question parce que en fait, moi, peut-être que je suis un peu trop boomer, donc je l'ai jamais fait, je pense. Non, sur de la prospection, j'ai jamais fait. Les vidéos, oui, of course. Mais du coup, quand tu dis que ça marche, c'est des discussions que t'as avec d'autres personnes qui font à peu près la même chose que toi, qui ont testé, qui ont des résultats.
Ouais, et puis même nous en interne, on voit les rares fois où ils le font, ça fonctionne. Donc en fait, c'est encore plus frustrant de se dire, mais faites le plus. C'est un peu comme les WhatsApp en fait. Aujourd'hui, on a la flemme d'envoyer un texto, on s'envoie un vocal. Bah, en fait, le prospect, ça dépend de la cible. Si vous tapez, je sais pas, Jean-François, c'est mon beau-père qui a la retraite et qui est pas du tout sur LinkedIn. Bon bah clairement, le message vocal, il va pas le voir. Par contre, si vous voyez que c'est une personne qui est plus jeune, etc., là, ça vaut le coup de tester cette façon.
Ok, très cool.
Mais effectivement, on essaie en tout cas de pousser plus, mais on est plus sur le call call. Où là, ça va être plutôt des fréquences sur des calls tous les 2 jours. On va essayer de jouer sur des numéros de mobile, donc on va utiliser des outils qui vont scraper les mobiles sur LinkedIn. On va aussi beaucoup travailler sur la partie standard, les gatekeepers, pour justement ouvrir un marché. Ouais. Donc ouais, on essaie vraiment d'intégrer
Et sur la partie call, parce que bon, dans ce podcast, on a beaucoup de personnes ont parlé du call-call. Aujourd'hui, c'est quoi votre approche justement que tu disais tout à l'heure ouais nous on n'est pas là pour dire genre je vais vous envoyer un mail voilà et de reprendre le contenu finalement qu'il y a dans le mail ce qui est fait par 80% je pense des gens c'est quoi justement l'approche de Spendesk en fait là-dessus comment
on a toujours le fameux why me why now je sais pas si tu l'as déjà entendu.
Non, dis-moi.
C'est pourquoi tu m'appelles moi et pourquoi tu m'appelles maintenant. Donc en fait ça va aussi justifier que c'est un truc super personnalisé, donc why me why now par rapport au prospect. Et l'approche qui marche le plus, c'est l'approche par industrie. C'est de se dire, je t'appelle, je sais ce que ta boîte fait, je connais cette industrie et je sais les problématiques que vous avez dans cette boîte. Enfin, dans ce type de boîte et dans cette industrie. Peut-être que ce n'est pas le cas pour la personne en face, tant mieux, ça veut dire dans tous les cas, il n'a pas besoin de se mêler, parce qu'en fait, on ne va pas créer non plus un DIN qui n'existe pas. Mais en fait, on va arriver avec quelque chose de plus transparent pour lui. Et donc, il va se dire, OK, il sait déjà qui il appelle. Donc, je ne suis pas juste une liste de prospection. En plus, il a l'air effectivement d'être expert sur ce domaine, en tout cas sur mon industrie. Donc, je vais l'écouter d'autant plus. Après, tu vas pouvoir aussi... parfois, il y en a qui citent des compétiteurs, enfin des concurrents qui sont sur le marché, qui travaillent avec nous ou pas. Parfois, effectivement, il faut un petit peu
détourner. Il faut pas le faire, parfois.
Voilà. Moi, je ne suis pas vraiment de cette école-là parce que peut-être que justement, vous bossez avec mon concurrent, je n'ai pas du tout envie de bosser avec vous. Donc, ça peut être aussi à double tranchant.
Je suis d'accord.
Ça peut être aussi, on travaille avec un tel, mais ce n'est pas du tout vrai, sauf qu'en fait, ils sont potes parce que vous savez que tous les milieux sont super petits et il va te dire, non, je le connais très bien et il ne bosse pas du tout avec vous. Donc, attention aussi à ce type de survente ou en tout cas de mensonge. Mais l'approche par industrie chez Spendesk, elle marche bien. Par pain, du coup, qu'est-ce qu'on résout dans votre industrie. On sait qu'il y a ces problématiques-là. Et on commence à ouvrir aussi des questions. Est-ce que ça fait écho chez vous? Comment vous le faites? Et le but, c'est un petit peu, on en parlait en off toutes les deux, c'était de se dire, on va essayer de vendre un audit, en fait, gratuit. Moi, ce que je vous propose, c'est passer 20 minutes avec moi. Et en fait, je vais vous poser plein de questions sur votre process. Et je vais vous dire, peut-être, sur certains éléments, on peut, ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je pourrais vous dire si vous avez la bonne façon de faire, sans prétention, sans jugement, parce qu'attention aussi, vous allez toucher à des process financiers qui ont été mis par peut-être des personnes qui ont un ego incroyable et que, du coup, ils n'ont pas forcément envie de se faire remettre en question.
Ouais,
donc, c'est plutôt cette approche de conseils, d'experts sur le sujet pour vous aider à peut-être améliorer certaines choses.
Ok, trop cool. Alors moi, justement, sur toi en tant que manager, du coup, vu que tu as des sales qui parlent, en fait, qui sont, du coup, j'imagine, pas mal répartis en industrie, du coup, ces pains-là, c'est toi qui travailles sur la formulation de ces pains. Et du coup, comment? Alors déjà, ce qui m'intéresse, c'est comment. Et comment tu les updates? Parce qu'en fonction, comme tu as dit, Aspendex a 7 ans, les pains d'il y a 7 ans et les pains d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est quoi ton process, en fait, pour t'assurer, en fait, qu'ils soient toujours pertinents?
Chez Spendesk, ce qui est cool, c'est qu'on s'est créé une énorme bible, un enablement un petit peu. Donc maintenant, en plus, on a un service enablement qui va travailler avec nous sur cette formation continue des sales. Donc, tout est référencé. Aujourd'hui, sur Notion, j'ai des tonnes et des tonnes de pages. Pas très bien rangées, certes, mais en tout cas, elles sont là. C'est de se dire, je suis en call, j'ai besoin de la partie script. Bon, je vais sur la partie script. OK, je suis sur quoi? Je suis sur du retail, je suis sur de la restauration, je suis sur du BTP. Et en fait, sur chacun des éléments sur lesquels on va chasser, on a ces infos-là. On a les name drops, on a les phrases qui font un peu tout, enfin, qui font waouh. Donc, on a vraiment référencé l'ensemble des éléments. Et parfois même, sur certaines industries, on va encore plus loin, c'est de se dire, écoute ce call mojo qu'on a gardé dans la bibliothèque qui parle en fait de l'industrie et tu vas comprendre les pains. Donc, on a vraiment essayé de faire quelque chose d'hyper carré avec tout de référencé pour qu'un BD en autonomie puisse aller chercher les phrases dont il a besoin. Et ce qui est cool, c'est que ce travail-là, on ne l'a pas fait que nous côté manager. C'est aussi dans l'ADN Spendesk de se dire les BD doivent être aussi force de proposition et surtout doivent être eux-mêmes les acteurs de leur apprentissage. Et du coup, au bout d'un moment, on va se dire que notre onboarding dure 4 à 6 mois. Une fois que c'est ça, bon, ça y est, t'as ton rythme de croisière. Et dès que tu passes un peu middle senior, tu vas participer à la création de workshops, de contenus, de supports en interne pour aider les autres. Et donc là, par exemple, BTP, c'est une industrie qu'on a chassée dernièrement. On a dit, je sais pas, Vincent, toi, ça te dit, tu deviens expert sur le sujet et tu bosses dessus et tu nous fais cette page. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde travaille sur l'apprentissage de chacun et qu'on ait tout de référencé.
Trop bien. Et du coup, toi-même, parce que c'est toi qui dois donner un petit peu le là, même s'ils apprennent eux-mêmes, etc. Justement, sur ces pains, t'écoutes les mojo, t'écoutes les calls sur Mojo. On fait trop de pubs pour Mojo, mais bon, c'est un tool cool. Oui. C'est un tool cool, donc ça me dérange pas. Du coup, genre, t'écoutes ces calls, et en fait, qu'est-ce qui te permet de te dire, en fait, c'est ça, en fait, c'est comme ça que je vais le formuler? Parce que c'est là où, en fait, les gens, ils ont vachement de mal. Et parfois, ils peuvent raconter un petit peu, je dis pas n'importe quoi, mais en fait, c'est pas impactant, tu vois. Genre, du coup, comment toi, tu fais? C'est parce que tu l'as testé toi-même, tu fais les calls ou tu t'appuies que sur les calls, en fait, de tes sales?
Donc, je crois qu'Adeline t'en parlait dans l'épisode. Déjà, on va faire beaucoup de simulations quand ils arrivent sur la partie onboarding. On va avoir une semaine où ils vont faire de la simulation avec des BDR seniors, avec des managers. Et là, en fait, on va un peu leur donner un espèce de planning. Pense à voir toutes ces industries-là dans tes simus. Pense à voir toutes ces objections-là dans la semaine. Et donc, en fait, il va y avoir des must-have qui va devoir forcément croiser avant de faire ses propres calls. Attention, on a réaccéléré aussi le fait de faire ses premiers calls plus tôt, parce que plus vous attendez, et plus les mecs appréhendent de prendre le téléphone aussi. Donc le but, c'était de se dire, prends ton téléphone, rate-toi, c'est pas grave, mais au moins t'es en vraie situation, parce que le faire avec ton collègue, c'est pas du tout la même chose.
Ouais.
Donc on a d'abord listé plein de simus, plein d'objections sur lesquelles ils doivent bosser, qu'ils doivent apprendre. Plus tu connais ton texte par cœur, je te dis pas d'être un robot et de tout scripter, mais plus t'es à l'aise sur comment tu vas rebondir, comment tu vas aller chercher, comment tu vas te sortir de ce truc, comment tu vas répondre à ton objection. Du coup, t'as moins de choses à penser aussi sur ton script, tes fixtures, enfin voilà, tous les trucs que tu peux apprendre par cœur. Et du coup, on va les écouter. C'est une écoute assez dense quand ils arrivent. Pendant, on va dire, le premier mois, chaque manager a charge d'écouter 3-4 call par jour par gars. Sachant que nous, on intègre 8 BD toutes les semaines, ça fait beaucoup en volume. Mais en fait, c'est là où il faut se dire, vous avez votre maximum d'effort en tant que manager pour coacher vos mecs, c'est sur les deux premières semaines. parce que c'est là qu'ils vont avoir une courbe d'apprentissage sur le call qui est la plus dense. Et en fait, au plus vite c'est fait, au plus tôt.
Ouais, c'est débarrasser la peur, succès, les appréhensions, tout, voilà. tout est parti.
Et en plus, ils peuvent prendre clairement des meetings, même au bout du troisième jour. Donc, ouais, c'est ça qui est hyper intéressant. Et du coup, on va les écouter. On va utiliser Mojo, désolé encore. On va mettre des commentaires, on va les écouter avec eux. On va aussi les challenger sur est-ce que tu te rends compte là, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire avant même de donner la réponse. Bah, en fait, eux le savent. Donc, puis nous, ça nous fait moins bosser, donc c'est aussi plus sympa. Et après, on regarde effectivement les taux de conversion. Nous, on utilise SalesLoft et Salesforce du coup sur le tracking de la data. Donc tous les soirs, ou même en instantané, on voit combien de calls ils ont fait. Sur ces calls, combien ont été connectés, combien ont été plus de 3 minutes. Donc on parle d'une conversation. Combien sur ces 3 minutes ont été des conversations positives. Et en fait, on a une granularité comme ça qui nous permet de savoir où est-ce que ça pêche. Donc, est-ce que c'est qu'il raccroche trop vite ? Est-ce qu'il parle trop ? Mais du coup, ce n'est pas positif parce qu'en fait, à la fin de son call, il n'est pas assez pushy. Donc, c'est comment on travaille peut-être ton assertivité dans le call. Est-ce que c'est positif ? Mais par contre, tu n'as que des meetings pendant 6 mois. Bon, on va peut-être bosser ta création d'urgence. Et en fait, en fonction de la data que tu vois sur ces calls, tu arrives à comprendre où ça pêche dans le call et du coup d'aller écouter le bon moment aussi et de savoir que là, en fait, c'est ton closing de ce call, c'est ta next step qui est mal gérée. Donc, c'est comme ça qu'on va bosser. Et effectivement, tu vois aussi, s'il n'y a pas de conversation, c'est qu'il n'arrive pas à catcher l'attention. Donc là, c'est peut-être que son accroche, elle n'est pas bonne, mais donc peut-être que son script par rapport à l'industrie est mal utilisé.
Ok. Et
à l'inverse, j'ai envie de dire juste, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous prépariez vos call. Je suis en train de dire qu'il faut que vous connaissiez tous vos cas d'usage par cœur pour que tu puisses call-coller sans préparer chacun de tes calls. Parce que sinon, en fait, tu passes 5 minutes par call-call à le préparer.
Et c'est hyper cool ce que tu dis parce qu'il y a souvent cette croyance de dire que... Alors moi, parce que moi, je ne le fais pas comme ça. Donc, je me dis que c'est moi qui ne faisais pas bien les choses. Parce que je me remets aussi toujours en question.
C'est très bien.
Non, mais les gens, en fait, qui disent, voilà, moi, je passe 5 minutes avant d'appeler les gens pour regarder les choses. Moi, j'ai jamais fait ça comme ça. J'ai une liste qui est bien, qui est cohérente en fonction de l'industrie, du persona que je vais aller chercher, etc. Et je trouve ça intéressant de dire, voilà, en fait, j'ai suffisamment une connaissance. J'ai mon script de base qui me permet de travailler, comme tu dis, la création d'urgence, le fait de pourquoi c'est important qu'il me parle maintenant, etc., etc. Lever le malaise, tous ces classiques-là. Mais en réalité, par contre, mes cas d'usage, etc., effectivement, je les ai. Sont pertinents pour cette cible-là que je suis en train d'appeler aujourd'hui. Et je ne suis pas obligée de perdre du temps. Du coup, j'appelle plus de monde. Et du coup, j'ai plus de chances d'avoir des résultats. Donc, je trouve ça intéressant que tu le notes parce qu'il y a quand même beaucoup ce genre de choses de dire passer sur LinkedIn, regarder pendant 3, 4 minutes, 5 minutes ce que le prospect fait, etc., etc. Et qu'on se trouve dans un truc où, en fait, la personne, elle va prendre un truc, elle va faire un copier-coller. Ah ouais, j'ai vu que vous aviez fait ça. Et du coup, tu casses le truc. Je ne sais pas du coup si tu corrobores. Mais...
Et il ne faut pas oublier que tu as une chance sur deux que le mec ne décroche pas. Donc en fait, tu as fait tout ça pour rien. c'est hyper frustrant. Et après, je pense que ça dépend aussi des volumes de calls que les équipes doivent faire. Nous, ils font entre 40 et 50 calls par jour. Si on veut qu'ils finissent avant 19h, il ne faut pas qu'ils perdent de temps là-dessus. Et tu l'as dit, c'est un truc hyper basique, mais en même temps, tout le monde ne le fait pas. C'est prends-toi une industrie par jour. Aujourd'hui, prends-toi toutes les boîtes de prod. Parce qu'en fait, comme ça, tu enchaînes tes problématiques, tu les connais, tu les enchaînes, tu n'as pas besoin de préparer entre chaque truc. Par contre, effectivement, sois sûr que la boîte, elle est toujours ouverte, que la personne, elle est toujours là. Mais ça, tu peux le faire quand ça sonne, en fait. Tu lances ton call, hop, tu vas sur le profil du mec sur LinkedIn, tu vois s'il est toujours dans la boîte, tu vois où est-ce qu'il était avant, parce que peut-être que ça peut te faire ton accroche. Et en fait, tu as préparé ton call parce que tu connais ton industrie et parce que tu as préparé ta liste de calling. Ce que tu dis, en fait.
Carrément. Alors du coup, je vais vouloir revenir sur la partie tracking parce que tu as donné pas mal d'éléments hyper intéressants. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle des roleplays. Tout le monde parle des roleplays, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans ces roleplays. C'est quoi les roleplays que tu mets en place ? Comment tu fais en sorte, parce qu'il y a toujours ce truc-là où en fait les gens disent « Ouais, mais en fait, dans la vraie vie, j'oserais pas, je le ferais pas comme ça, etc. etc. » Moi, j'ai souvent eu ces objections-là. Quand je faisais de la formation de sales. Donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu mets en place ? Est-ce que tu as plusieurs types de roleplay ? Est-ce que tu as plusieurs types de roleplay par rapport aux industries ? Etc., etc.
Carrément. Déjà, l'excuse de « je ne ferai pas ça dans la réalité », moi, c'est « ok, je suis en train de faire un exercice avec toi, fais-le à fond et fais comme si tu étais dans la vraie vie parce qu'en fait, sinon, on ne travaille plus. » Et ça, j'ai jamais eu à le dire, tu vois, donc c'est marrant. Je pense que nos gars se mettent vachement dans le jeu et ils savent que c'est pour eux et c'est pour le bien qu'ils le fassent à 100%.
Okay.
Parce qu'en fait, ça va les aider. Donc déjà, tu vois, c'est cool ce truc-là, je l'ai jamais entendu.
Ouais, mais tu l'as jamais entendu parce que je pense que tu as un truc super cool comme process, c'est que en fait, les sales managers ou head of sales ne font pas, c'est que ce que tu dis, c'est qu'il y a des il y a des moments de replay dans la semaine qui sont obligatoires. Enfin, ça fait partie du truc. Ouais. Généralement, les replays, de ce que je vois, c'est fait en mode genre, ok, ça va pas les chiffres, viens, je te prends une heure demain, viens, on fait un replay, etc. Tu vois, c'est pas organisé.
Ouais,
c'est
en pas plus, dans... le bidi, il a peut-être l'impression qu'il y a une grosse pression parce que c'est exactement le moment où il faut montrer. Exactement. Bah là, tu vois, si tu fais même les détails, c'est la première semaine quand nos gars arrivent, ils ont déjà dans leur agenda tous les workshops de la semaine, mais ils ont aussi plein de slots de 15 minutes. Avec, ils en ont, je sais pas, une dizaine sur deux semaines, avec des bidières seniors. C'est les bidières seniors qui envoient les invites, donc en plus, c'est hyper fluide. Et en fait, nous, ce qu'on va venir, justement, c'est ce que tu me disais, on va venir travailler des scripts. Pas des scripts, mais en tout cas des situations. On veut que tu joues un DAF dans une boîte de retail qui a tant d'établissements, enfin, tant de boutiques, par exemple. Et en fait, on va créer une bibliothèque, encore une fois, sur Notion, avec en fait des exemples types de scripts et de mise en situation que les BDR seniors qui vont faire passer les scripts du coup, enfin les simulations, vont utiliser. Donc ça peut être sur l'industrie, ça peut être sur aussi des personas. Joue un mec hyper farmé, joue quelqu'un qui t'envoie bouler mais on sait pas trop pourquoi, etc. Donc en fait on va aussi créer des situations. Et à l'inverse, ça j'aime beaucoup, c'est faire des reverses de simulation. Ça veut dire qu'en fait le senior va jouer le sales, donc il fait son rôle,
yes.
Le nouveau va jouer le client, et en fait là tu vas jouer les pires sales, et comme ça le nouveau sales va se mettre dans la peau de quelqu'un qui se fait chasser par quelqu'un de très mauvais. Par exemple, j'avais un bidi là, on bossait sur le fait qu'il l'écoutait pas et qu'il répondait à la place du prospect à ses propres questions, et donc en fait on a fait un reverse où le manager a joué un bidi qui parle trop, un bidi qui s'écoute, un bidi qui répond à ses propres questions. Et du coup, là, le bidi s'est dit « Ah ouais, je suis insupportable en fait, je m'en rends compte. » Et du coup, ça permet aussi de faire des prises de conscience très perso par bidi. Et donc, ouais, ça dépend en fait de ce que vous avez besoin de bosser sur le bidi, mais industrie, les personas, les types de personnes, les types de problématiques. Et c'est tout simplement, on part sur 15 minutes, on en fait un ou deux, et après, je te fais un gros débrief. Donc, en fait, c'est le débrief qui est beaucoup plus important que la simulation. Parce que ce qu'on va regarder aussi, c'est à quel point cette personne, elle a envie d'apprendre, elle est coachable, comme on dit. Donc, c'est qu'est-ce qu'elle prend en note. Attention de pas trop donner de feedback non plus, parce qu'en fait, on sait qu'au bout de 3 feedbacks, on est sous l'eau. Et puis, même le bidi, c'est pas quoi prioriser. Donc, c'est je te fais plein de feedback, mais par contre, après, je te dis, bah, priorise surtout celui-là et celui-ci.
Okay.
Donc, le débrief est encore plus important que la simulation en elle-même, quoi.
Ok, trop bien. Et du coup, alors moi, le truc que je vois souvent, c'est que les boîtes, elles font des simulations, des replays, toujours au début, pendant l'onboarding, mais après, ça se perd. Adeline disait justement, et puis d'autres personnes, que sur la partie BD, vous avez parfois pas mal de turnover ou peut-être un manque de... Enfin, une baisse de motivation, je crois, à partir de 7 mois à 8 mois. Toi, aujourd'hui, les replays, est-ce que t'en fais encore après, ou c'est juste sur la partie onboarding et après tu fais d'autres choses, plutôt juste de l'écoute de call, mais moins de replay?
Ouais, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on ressent et c'est ce que les bidis nous disent. Au bout d'un moment, quand ils sont trop seniors, un roleplay pour eux, ça n'a plus assez de... Le challenge n'est pas assez gros, entre guillemets. Donc effectivement, on va partir sur des vrais calls. Cette écoute de call dont je parlais au début pour les onboarding, on continue après sur la partie qualification quand ils sont middle, senior, où là, on va vraiment travailler la partie qualif. Le but, c'est aussi qu'eux s'écoutent eux-mêmes, qu'ils écoutent des calls des autres qui sont meilleurs peut-être sur certains moments de leur call, etc. Donc, on ne fait plus de simulation, mais on va être plus sur effectivement de la dissection de leur call, très poussée sur... Tu vois, à ce moment-là, la personne, elle a levé les yeux. Tu aurais dû lui dire, bah, pourquoi vous levez les yeux ? Qu'est-ce qui vous choque ? Donc, ça va être beaucoup plus poussé, tu vois, sur la lecture du call que sur un script. Parce qu'en fait, nos mecs middle senior connaissent leur script et ils savent ce qu'ils doivent dire. Par contre, après, on va être plus sur... ce côté psychologie sales dont on parle un peu plus.
Sur la partie découverte et comment faire des bonnes découvertes pour pouvoir capter, etc. Trop cool. Alors du coup, je vais revenir un petit peu sur la partie tracking. Tu as parlé des approches. Les approches, comme je te disais, bah, effectivement, parfois, elles sont moins bonnes, etc. etc. Tu as parlé d'un peu de voilà, comment tu regardais, etc. Toi, aujourd'hui, tes sales... Je ne sais plus si tu l'as dit, désolé, j'ai oublié, mais combien de rendez-vous ils doivent prendre justement sur la semaine, et comment en fait justement tu regardes le nombre, pourquoi en fait ils n'ont peut-être pas les rendez-vous, pourquoi justement ils réussissent peut-être à en avoir plus, l'acceptation des rendez-vous par les AE, parce que j'imagine que c'est très important, etc. etc. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu regardes la partie performance et comment tu lis ça et comment justement ça drive un peu tes prises de décision au quotidien, quoi.
dans tous les cas, effectivement, toute la data, on l'a, mais c'est surtout quels sont les objectifs qu'ils ont individuellement à aller chercher. L'objectif final du mois, c'est aller chercher 10 opportunités par personne. Et en fait, de là, on sait qu'à peu près, il faut aller chercher 6 meetings par semaine, parce que taux de no-show, parce que taux de conversion différent en fonction des BD. Sur ces 6 meetings par semaine, on sait qu'il faut à peu près 200 calls dans la semaine. Donc en fait, de base, on a des ratios qui fonctionnent et qui sont donnés à tous les BD. À l'inverse, moi j'ai des BD qui vont réussir à prendre 11 meetings avec 100 calls, parce que les mecs sont hyper forts, qu'ils ont une assertivité, ils ont un truc qui... Par contre, on sait qu'ils ont beaucoup de no-show derrière. Donc c'est comment tu vas travailler. C'est bien, tu fais beaucoup, mais en fait tu perds ton temps, tu t'essouffles parce que tu prends plein de meetings mais qui sont pas effectués. Donc on va travailler le no-show. Bref, en gros, chaque élément, on parle d'input et d'output. Donc l'input, c'est tout ce qu'on va générer, l'output, c'est tout ce qui va être créé grâce à cet input. On va les lister. Donc on a effectivement le nombre de calls, le nombre de meetings, le nombre de conversations. On va aussi tendre vers 40 conversations par semaine. Donc c'est tout ce qui est de plus de 3 minutes, parce qu'en fait c'est là où tu peux soit sortir ton pipe, soit créer un pipe pour du long terme, etc. On va regarder aussi le nombre de comptes que tu mets dans la machine, le nombre de contacts que tu mets dans la machine par semaine, le nombre de comptes que tu sors de la machine, donc c'est quelle est ta rotation de pipe. Ça, souvent, on ne le regarde pas. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des pipes qui grossissent, et qui en fait, qui font que stagner. Ouais. Et du coup, tu mets tellement pas de sang neuf dans ton pipe, en fait, tu brasses du vent sur des comptes qui n'en valent pas la peine, et du coup, tu t'essouffles. Enfin, donc ça, c'est un élément super important aussi à regarder.
Et juste pour sur la partie, je fais juste une aparté, sur la partie objectif, quand ils arrivent, quand tu recrutes les gars ou quand tu demandes à tes gars de recruter des gens et les process qu'ils doivent mettre en place, comment tu, parce que c'est toujours une difficulté, comment tu leur fais penser aux sales que les objectifs que tu donnes sont des objectifs largement atteignables, tu le sais quoi, les objectifs pour les sales, il faut que ce soit suffisamment challenging pour leur donner envie, mais aussi réaliste pour pas les décourager quoi.
C'est comment le process? C'est un peu facile parce que du coup, nous, on a les preuves que ça fonctionne.
Okay,
alors, je pense qu'il faut aussi, à 5 ans, tu mets ça en place, comment tu prouves que ça va marcher. Je pense que tu peux pas tant que tu l'as pas montré. Donc, peut-être c'est réitérer aussi et changer. Nous, avant, par exemple, on poussait à aller chercher 5 meetings. On s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Maintenant, on les pousse à aller chercher 7, mais on se rend compte que la moyenne, elle est plutôt de 6. Donc, c'est va chercher 7, mais t'arriveras à 6. Mais bon, en tout cas, on sait que tu vas attendre plus. Donc, c'est un truc qu'on a revu. Pareil sur le nombre de calls. Avant, on était sur 150 par semaine. Pas suffisant. Maintenant, après, on est passé à 180, maintenant on est à 200. Donc, on sait que c'est des choses qu'il faut réitérer. Il ne faut pas hésiter à changer dans tous les cas tes targets, prendre du recul dessus, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
Et du coup, tu leur expliques comment qu'il faut augmenter le truc?
En fait, c'est de leur montrer les chiffres aussi. Hein. Les mecs ne sont pas bêtes. Si tu veux arriver à ton 100% de variables et de targets, on sait qu'en fait, avec tes taux de conversion, donc ça, c'était une question dont tu m'avais parlé en off, les taux de conversion, c'est la data qu'on va regarder tous les fins de mois, mais aussi après, on va regarder un peu plus haut sur le nombre de calls avec le nombre d'opportunités créées tous les trimestres. Enfin, en fait, on va suivre leur data. Eux le comprennent aussi. Ils suivent eux-mêmes leur data. Ils connaissent leur data. Et donc, ils savent que, en fait, quelqu'un qui va faire 100% des calls va faire 100% de sa perf. Quelqu'un qui va faire 120% de calls va faire 120% de sa perf. C'est bête, mais c'est mathématique. Bien sûr, c'est pas aussi beau que ça. Et parfois, ils vont faire 200% de leur call et il n'y a rien qui va rentrer. Bon, c'est une semaine dans le dur et on l'a déjà tous eu en tant que sales. Ouais, c'est pas grave. Il faut que tu combattes ce truc va trouver aussi pourquoi. Mais ils le comprennent. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais on est très data au chez Spendesk. Donc, très vite, on va leur parler de ces objectifs-là. On va leur montrer. On n'a pas dit ça au doigt mouillé, on leur dit pas ça pour les embêter, on leur dit pas ça pour les forcer à faire un truc. C'est que c'est comme ça que vous allez arriver à la perf.
Ouais, mais du coup, ça demande. Enfin, pourquoi j'insiste dessus, c'est que, la plupart des boîtes, et je pense que, c'est pas vrai que tout le monde est super structuré avec des process, de la data qui est lisible et visible par tous. Du coup, c'est aussi là où j'ai envie d'arriver, c'est de dire en fait que si tu veux en fait motiver tes teams, on en parlera tout à l'heure des leviers de motivation, mais c'est un levier de motivation de dire en fait. La boîte dans laquelle je suis, ils savent ce qu'ils font quoi. Ils me racontent pas que je dois aller chercher 200 calls pour aller faire 200 calls. En réalité, en fait, je vois bien que ça marche, que ça fonctionne. Donc je trouve ça intéressant.
Et après, nous aussi, on va aller. C'est des datas qu'on va regarder. Donc, on a les one-on toutes les semaines. Mais en tant que manager, on peut aussi se dire, ok, ça fait 3 jours qu'il a pas fait ses calls. Dernièrement, on n'attend pas 3 jours, on attend peut-être le deuxième jour, et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais pas tes calls. Et très souvent, le manager est un peu défaitiste et un peu dans le jugement de, ok, il fait pas son taf, c'est pas bien. En fait, peut-être que le BD va réellement pas bien personnellement, peut-être qu'il a un problème d'outil, peut-être que l'outil avec lequel on call ne marche plus. Enfin, en fait, c'est aussi déjà comprendre pourquoi tu fais pas ta perf en tant qu'input? Pourquoi tu ne fais pas ton activité? Est-ce que c'est un problème de technique? Est-ce que c'est un problème d'effort? Est-ce que c'est un problème de motivation, etc.? Donc, c'est à nous, ça, d'aller déverrouiller ce truc-là. Et ouais, souvent, on le voit de côté négatif, alors qu'il y a peut-être une très bonne raison qui est justifiable de la part du BD. Et donc, allons chercher aussi ce truc-là. Du coup, ça revient au driver, effectivement. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu fais tes calls? Qu'est-ce que tu vas apprendre ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu veux être BD, en fait? Pourquoi tu veux faire du call-call? Donc, c'est aussi travailler là-dessus. Et ils le savent derrière, ils vont apprendre énormément parce que c'est le taf le plus dur. C'est physiquement dur, c'est moralement dur.
C'est hyper difficile.
Hein. Mais derrière, tu défonces n'importe quelle porte dans ta vie, perso, pro. Et ils le savent, en fait, ça. Donc, je pense qu'il y a ce truc de prise de conscience aussi de je me fais un peu mal, mais en même temps, je m'amuse aussi. Parce que si tu te fais pas plaisir dans du call-call, je pense qu'au bout de 3 mois, t'es lessivé et en fait, tu fermes la porte. Donc, c'est aussi comment on arrive à gamifier ce truc-là. Ça, on le fait beaucoup, nous, côté manager, où on va pousser, je sais pas, tous les trimestres, des énormes challenges avec les AE. Donc, c'est aussi comment tu rajoutes du fun dans le quotidien pour les inciter. Surtout, nous, nos profils sont des sorties d'école, donc c'est des personnes assez juniors. Ils n'ont pas vraiment de comparatif avec d'autres boîtes. Ils n'ont pas vraiment cette prise de conscience de c'est quoi, en fait, la dureté, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui n'est pas dur. Donc, il y a pas mal de... Je pense que la gamification peut aider beaucoup.
Trop bien. Alors, du coup, j'aimerais qu'on revienne encore sur la data, parce que c'était extrêmement intéressant quand tu disais que toi, t'es capable, en fait, de traquer... Alors, généralement, la base, c'est les gens traquent le nombre de calls, le nombre de rendez-vous, et pour ceux qui sont plus avancés, le nombre, s'ils ont des équipes spécialisées, le nombre de rendez-vous acceptés par les sales. Généralement, ça va être ces trois data. J'ai l'impression, dans ce que tu racontes, c'est que c'est pas suffisant, en tout cas, pour faire monter tes sales. Parce qu'en fait, finalement, ça veut rien dire. Il y a des semaines, ça peut être bien, il y a des semaines, ça peut être moins bien, mais tu sais pas pourquoi, en fait, ça fonctionne pas. Et donc, du coup, là, parfois, je vais un peu à contre-courant de parfois des choses que je dis. On dit tous que la prospection, c'est difficile, mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas forcément suffisamment d'informations pour savoir sur quoi on doit bosser? Et du coup, là, j'aimerais qu'on peut-être on rentre un peu plus dans le détail de un peu ce que tu as dit. Toi, aujourd'hui, bon, déjà, peut-être reprendre les data que tu suis. Et puis, donner peut-être des exemples un peu concrets peut-être sur la phase de découverte, peut-être sur justement l'agressivité, etc. Comment tu arrives à l'agressivité commerciale? Avec plein de guillemets, évidemment. Voilà, c'est mieux. Je vais utiliser ce terme maintenant. Ok. Du coup, si tu peux peut-être reparler de ça et qu'on creuse un petit peu plus ça, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et surtout, peut-être les moyens, parce que les gens vont se dire oh là là, non, mais c'est trop de data, c'est trop compliqué à aller suivre. Est-ce que c'est facile à suivre tout ça ou c'est parce que vous êtes une machine de guerre, vous avez mis en place une machine incroyable qui vous permet de tout piloter voilà.
Je pense que c'est facile parce qu'on a deux outils qui sont connectés et qui nous filent la data, c'est Salesloft et Salesforce. Donc effectivement, je pense qu'on j'ai un peu le meilleur setup pour suivre cette data aujourd'hui.
Okay.
Mais je pense qu'on peut quand même, peut-être à la louche ou avec des moyens de tracking, savoir cette activité par rapport au BD. Peut-être qu'on ne va pas l'avoir au jour, mais peut-être qu'on peut l'avoir à la semaine. Le premier truc sur lequel je veux revenir, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a plein de boîtes qui traquent l'output, donc le MB, enfin le meeting, peut-être le taux de close zone, enfin voilà, le nombre de deals acceptés par les AE. Ça, c'est très bien et c'est important puisque c'est ta perf. Donc, il faut que tu saches où t'en es, il faut que tu saches ton forecast, etc. Mais par contre, là, c'est pas du tout prendre en compte que, en fait, tes BD, c'est des humains et qu'ils ont besoin de ton aide, qu'ils ont besoin de formation. Si tu prends pas tes meetings, c'est pas que t'es mauvais. C'est qu'il y a un truc, effectivement, sur lequel on doit bosser. Et lui, il sait pas. Sinon, il l'aurait déjà bossé et il serait meilleur. Donc, en fait, là, c'est à quel point ta vision du manager, elle est « j'accompagne mes équipes » ou « j'attends de la performance ». Mais attention, si tu attends uniquement de la performance, tes mecs ne vont pas rester longtemps ou ils ne vont pas progresser ou ils vont souffrir. Toi, tu ne seras pas à ta perf, donc tu vas souffrir. Enfin bref. Donc, pour moi, c'est vraiment ce rôle de traquer la data. Ce n'est pas pour pointer du doigt « ça, c'est mal ». C'est pour se dire « en fait, regarde, c'est là qu'on va devoir bosser et grâce à ça, tu vas pouvoir être meilleur ». Du coup, pour te relister les éléments dans l'ordre, nous, on va regarder le nombre de comptes mis dans la machine. Le nombre de contacts. Donc, nombre de comptes, c'est nombre de boîtes. Nombre de contacts, nombre de personnes.
Et ça, en fait, vous êtes très au clair de dire, en fait, OK, guys, tu veux faire ce résultat-là. OK, il faut que tu aies tant de personnes dans la machine. Donc, c'est extrêmement clair pour les gens.
Après, c'est des fourchettes. Et pour ce coup-là, ils ne vont pas forcément le respecter parce qu'on va plus, après, travailler sur leur pipe entier et se dire, ne travaille pas. Donc, nous, on a des statuts de comptes. On a des... allocated, c'est tes comptes que tu n'as pas encore travaillé. On a des working, c'est les comptes qui sont en train d'être travaillés dans des cadences. donc pas à la tâche, mais vraiment dans les compétences. On a les intéressés qui vont être, je sens un truc, il n'y a pas forcément de meeting, mais je sens, et là, je vais mettre plus d'énergie parce que ça peut transformer plus vite. C'est un peu mes tièdes, entre guillemets, entre froid et chaud. Et aussi, les on va dire les qualifiés, ceux où ils vont être en phase de qualification parce que j'ai un meeting avec eux. Du coup, nous, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir des plafonds, de se dire, les working, tu ne peux pas en bosser plus de 100 en même temps. Parce qu'en fait, on sait que ton pipe, il va être sous l'eau. Si tu en as plus de 100, t'es intéressé, on va dire que tu dois en avoir une quarantaine max. C'est un peu ton pipe tiède, c'est là où tu dois foutre mettre ton énergie, donc n'en mets pas trop non plus. Et les qualified, bah, plus t'en as, mieux c'est, puisque ça veut dire que c'est tes meetings. Donc déjà, en fait, en fonction de ça, on va voir est-ce que t'es à poil, est-ce que ton pipe est trop rempli, et du coup, de réalimenter en conséquence dans ta semaine avec le bon nombre de nouveaux contacts et de nouvelles boîtes pour que ce soit toujours à cet équilibre. Donc tu vois, nous aujourd'hui, on va dire qu'il faut que tu ajoutes entre 30 et 60 entreprises par semaine dans ton pipe et que tu en enlèves autant pour que ça tourne.
Ok.
Après, on va dire aussi, en fonction du type de boîte que tu bosses, fais de la triangulation. N'ajoute pas un seul contact, mais peut-être va voir un high level et un opérationnel qui lui te donnera différentes pains. Donc pareil, on va aussi travailler tu vois, différentes entrées dans la même boîte. Pas pour toutes les boîtes, mais pour certaines boîtes. Donc c'est nouveaux comptes, nouveaux contacts. Suite à ça, on va regarder le nombre de calls qui va être déclenché par semaine. Et dans ce nombre de calls, je te parlais tout à l'heure, 1 sur 2 pas répondu. Nous, tu vois, c'est 40% de nos answers, généralement. Donc, on a 60% qui répondent. Donc, ça, on le sait aussi. Et c'est des datas, je pense, qu'on peut avoir assez rapidement. Si au bout d'un mois, vous avez de la data, vous pouvez faire vos moyennes.
Et pour voir le fait le nombre qui répond. Du coup, vous avez exactement vos cibles, à quel moment elles sont plus joignables. Vous avez déjà fait ce travail-là. Enfin, voilà.
Ouais. Alors moi, je suis pas hyper alignée avec ce truc-là. Il y en a plein qui disent à partir de 18h, les mobiles, ça marche trop. Et les CEO, c'est le midi, machin. Moi, en fait, appelez quand vous êtes en forme. Appelez quand vous avez envie d'appeler. Bon, attention, vous écoutez pas trop parce que sinon, les gens ne les appellent plus. Mais c'est-à-dire, c'est quoi ton énergie? À quel moment tu sais que t'es à fond et que tu vas être dans ton call? Bah moi, je sais que c'était après manger. Je sais pas pourquoi. Le matin, j'arrivais pas trop à coller, mais après manger, j'étais au taquet. À l'inverse, bon, non, digestion, peut-être que pour moi, c'est plutôt à 9h. Enfin bref. Donc c'est plutôt fait en fonction de vous et de votre dynamisme que en fonction de la réceptivité des calls par rapport au persona, machin truc quoi. Parce qu'en fait, même si c'est 19h,
puis en vrai, c'est pas forcément vrai. Je sais pas, c'est pas forcément toujours vrai. Enfin, tu vois, il y a des moments où t'appelles à 17h, t'as personne. Il y a des moments où t'appelles à 14h, je sais pas pourquoi, t'as plein de gens. Donc, ouais. Okay.
Et d'où l'intérêt aussi d'avoir des séquences qui vont te permettre de dire ok, je l'ai payé aujourd'hui, je le rappelle demain. Et t'avances aussi dans ta séquence parce que t'auras d'autres moments pour pouvoir l'appeler.
Ouais.
Donc, call connecté, pas connecté. Suite à ça, on regarde dans les calls connectés combien il y a eu de conversations, donc plus de 3 minutes. Et là, en fait, on peut se rendre compte, est-ce que tu arrives à expliquer, pas forcément pitcher, mais expliquer pourquoi tu appelles, qu'est-ce que tu pourrais apporter à la personne, et pousser un peu, vendre ton meeting. Ensuite, on regarde est-ce que c'est du positif ou non. Comment on le sait, en fait, tout simplement, quand on est sur Salesloft, les BD vont loguer des sentiments de call une fois qu'ils raccrochent.
C'est quoi les sentiments de call?
Je le traduis comme ça parce que c'est sur l'appli comme ça, mais c'est se dire est-ce que ça a décroché, est-ce que tu as eu une gatekeeper, est-ce que tu as eu un KDM, est-ce que tu as eu une next step, est-ce que c'était positif mais pas pour tout de suite, est-ce que c'était pas la bonne personne. Bref, et en fonction des actions que tu vas choisir pour raccrocher, ça va nous donner aussi ça va rentrer dans des datas et du coup on va pouvoir suivre
ces trucs. Trop cool. Okay.
Donc, par exemple, si le BD a mis. C'était intéressé mais pas pour maintenant, bah moi je peux aller checker, ok, est-ce qu'il a bien fait son taf d'admin derrière, il y a une next step, il est sorti de la cadence, etc., etc. Donc en fait ça c'est vraiment du suivi de pipe, et c'est un truc sur lequel il faut les former parce que ce pipe management il est pas inné quoi.
Ouais, bien
donc
sûr,
c'est aussi des trucs qui nous permettent de...
ouais, carrément.
Okay. Donc conversation positive, prise de meeting, taux de no-show, ça vraiment le regarde, combien t'as de meeting dans la semaine. Et finalité, le vendredi, combien t'en as eu? Donc, ça veut dire combien ont sauté? Est-ce que ça a été décalé? Est-ce que ça a été juste no-show? Est-ce que le mec t'a prévenu? Etc, etc. Si on voit qu'il y a beaucoup de no-show, bah, nous, ce qu'on aime faire, c'est réécouter les call qu'ils avaient fait sur les meetings auxquels ils ont eu des no-show. Parce que peut-être qu'en fait, on pouvait le sentir. Bah, tu vois, là, elle est pas engagée. Elle te dit oui, mais en fait, c'est juste qu'elle a envie de raccrocher. Enfin, bref, c'est des choses que tu peux apprendre.
Ouais, mais du coup, tu dis quoi, toi, ton sales? Ouais, mais j'ai pris le rendez-vous, quoi. Tu vois, genre...
Super bien, fais-le, parce que... Non, mais c'est cool, parce qu'en plus, t'as une dette client derrière, donc tu pourras la harceler un petit peu, cette dame qui n'est pas venue. Donc, faux ce meeting de no-show. Mais par contre, si en fait, tu vois que ton BD prend 10 meetings et qu'il a dit no-show, il n'y a aucune préqualification sur son call, et du coup, ça va être super long aussi de le faire monter en compétence derrière sur la qualification.
Ouais, ok, je vois.
Donc, c'est aussi de lui dire, il faut qu'elle comprenne aussi pourquoi elle vient. de quoi on va parler, qu'est-ce qui peut l'intéresser, pourquoi elle a intérêt à se pointer à ce deuxième rendez-vous, qu'est-ce qui va changer sa vie. Enfin voilà, c'est un peu après retravailler cette préqualification. C'est bien de l'eau chaude, mais s'il y en a trop, en fait, tu t'épuises et tu perds du temps pour un faux pipe, quoi.
Clairement. Carrément, ouais. Ouais, t'as un pipe déformé.
Je réfléchis aux data, mais je crois que c'est à peu près tout.
Bah, c'est et après, beaucoup, bah, effectivement... je pense que tu vois, genre... Ouais, il y a des gens, ils vont écouter, ils vont dire, bon, écoute, j'en suis trois. C'est déjà, bah, c'est déjà mal, tu vois.
Pour moi, c'est ça qui fait la réussite aujourd'hui de Spanet, c'est qu'on est bon sur la détection de où est-ce qu'on doit bosser. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et après, tu me parlais des data trimestrielles. Là, on va regarder plutôt le close one, le taux de DQ. Donc, c'est tout ce qui n'a pas été accepté par les AE. On le traque avec le DQ, donc la disqualification du lead. Et le taux de close one, on va le suivre, mais attention, on sait que c'est pas à la force 100% du BD, c'est aussi à l'AE qui l'a travaillé, etc. Mais c'est des choses qu'on va regarder aussi pour voir la qualité et ce qui, enfin voilà.
Ouais, mais du coup, je le précise parce que effectivement, il y a la data que tu suis genre quotidiennement, voire day to day, et la data que tu suis plutôt trimestre, voilà. Ouais. Et donc du coup, pour toi, en fait, la partie genre justement de voir en fait l'acceptation d'AE, pour toi, c'est plus une data de quarter, de regarder, de dire ok, en fait, sur mon quarter, finalement, les rendez-vous, du coup, ils sont bons, etc. Alors, justement, je vais te poser une question un petit peu. Je ne sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé, le fait que finalement, vous avez... Qu'est-ce que tu fais? Quelle décision tu prends? Si, par exemple, tu vois que, OK, peut-être sur ce quarter, vous avez été moins bon sur le volume de rendez-vous. Et par contre, vous avez été excellent sur la partie acceptation à eux. À l'inverse, peut-être un quarter, vous avez déchiré les perfs. Sauf que, du coup, peut-être moins bon, en fait. Il y a eu plus de refus, en fait, de la part d'AE de rendez-vous. C'est quoi pour
quand
toi
c'est,
le bon
ouais. Quand c'est flagrant, on n'attend pas la fin du trimestre. Parce qu'en fait, ça, tu le vois assez vite. Quand tu as plein de DQ sur la même semaine, sur le même mois et sur le même midi, là, tu sais, OK, il y a un problème. Tu n'as pas compris les critères de QSO. Il y a un problème dans ta qualif. Tu fais du forcing parce que tu es en panique, parce que tu n'arrives pas à faire ta paire. Enfin, bref, il va y avoir plein de choses. Attention aussi, la parole côté AE, elle n'est pas toujours objective. Je suis en train de bosser là-dessus avec Spendesk, là, sur faire des process de disqualification, justement, pour retrouver ce côté objectif. J'ai parlé avec pas mal de boîtes et c'est toujours les mêmes soucis, cette subjectivité dans l'acceptation d'un deal ou non. Ouais. Donc, il faut faire attention à la data. Il faut aussi, à chaque fois, on ne va pas dire qu'il va y avoir des jurisprudences sur chaque oppo, mais voilà, il va falloir aussi creuser qui a réellement où sont les critères où ils ne sont pas. Mais je pense que trimestriellement on le regarde pour voir effectivement l'évolution et la globalité de l'équipe. Si on voit que les taux sont beaucoup trop déconnants, c'est de se dire on va peut-être réaligner avant, parce que envoyer trop de volume avec trop de DQ, ça dessert à tout le monde. On perd du temps, côté AE on perd du temps aussi pour en fait un truc qui n'apporte absolument pas de business. Et puis ça monte pas dans les perfs, puisque nous chez Spendesk, les oppos envoyés non acceptés ne comptent pas dans leurs perfs. Donc, en fait, ils ne seront même pas payés dessus. Donc, tu travailles dans le vide, quoi. Donc, ça, c'est à réaligner avant. Comprendre aussi pourquoi il y a ces DQ-là, d'où elles viennent, est-ce que c'est la qualif, est-ce que peut-être que aussi chez Spendesk, alors, il ne faut pas qu'on sorte du sujet, mais comment les comptes sont alloués, c'est soit les team leads qui envoient des comptes, soit les ops qui envoient des comptes aussi sur certaines verticales, soit les BD qui peuvent s'auto-sourcer des industries sur lesquelles ils ont envie de bosser. Et on l'a déjà vu, un BD qui va se mettre à fond sur une industrie hyper particulière parce qu'il a envie de bosser là-dessus, en fait, on se rend compte que côté AE, c'est un truc qui ne peut pas closer parce qu'il travaille avec un logiciel comptable qui n'est pas du tout référencé, ou en tout cas avec lequel on ne peut pas bosser. Donc, tu sais qu'il va y avoir plein de DQ. Par malchance, il a pris 10 meetings avec cette industrie, les 10 passent pas. Ouais. Donc, ça peut arriver aussi sur des trucs, tu vois, très spécifiques. Donc, faut
vraiment c'est un changement de segment. Donc, c'est peut-être aussi notre manière de vendre, notre approche, etc. Donc, il est pas formé pour ça. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. En tout cas, je trouve la manière dont vous procédez, en tout cas, pour pouvoir faire monter vos équipes. Là, du coup, qu'on aille un peu sur le dernier sujet, qui pour moi, l'approche que j'aime, que j'aime bien ton approche dans le sens où t'es parfois, quand on parle de data, de tracking, etc., on peut être assez froid. Genre en mode, c'est comme ça, et du coup, je leur dis ça, et puis je regarde ça. Là, en fait, t'es en mode, genre, quand même, de dire, ouais, mais en fait, en même temps, parfois, la data, ça peut être quelque chose lié, en fait, à l'humeur. On a souvent cette fausse croyance de dire, en fait, ma message, je comprends pas, normalement, c'est ça, ils devraient faire ça, etc. Mais la vraie vie, c'est qu'on a des humains qui sont dans un contexte aussi économique qui n'est pas évident aujourd'hui, des prospects qui ont beaucoup changé, qui connaissent toutes les techniques dont on parle, en fait. Aujourd'hui, tout le monde les connaît. Et c'est ça qui est un peu
tout dur. Tout prospect sait qu'il va aller en démo dans deux semaines. Ça,
c'est... Exactement. Donc, du coup, c'est plus compliqué, plus complexe. Toi, aujourd'hui, c'est quoi tes leviers pour motiver ton équipe justement, parce que tu as la data pour savoir en fait à quel moment ça ne va pas, ou en tout cas, tu as des red flags, on va dire. C'est quoi tes leviers aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mets en place?
Je pense qu'il faut déjà connaître très, très bien ses équipes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont chez Spendesk, pourquoi ils sont en fintech, pourquoi ils sont en SaaS, pourquoi ils veulent faire BD, est-ce qu'ils ont déjà leur projection de vie. Parfois, on a des mecs, moi je sais que je veux monter ma boîte, du coup la partie sales est hyper importante. C'est trop cool, mais c'est pas tout le monde, donc il y en a plein aussi qui disent, je sais pas trop pourquoi je suis là, mais je sais que ça me plaît, etc. Donc c'est aussi trouver leur driver, leur motivation, pourquoi tu te fais tous ces calls, pourquoi, enfin voilà, vraiment comprendre profondément. Et du coup, c'est ça qui va après pouvoir aider quel type de message on va leur donner pour les encourager. Donc déjà, il y a la partie driver et le connaître. Et ça, le tip que je donne là-dessus, c'est à partir moi, de la validation de la période d'essai, je fais un espèce de meeting que j'ai appelé plan de dévotement. Je ne sais pas si c'est le vrai mot. Mais en gros, c'est de se dire, on part une heure et demie, on va dans un café, un resto, à deux, enfin en individuel, quoi. On sort du contexte entreprise. Et là, je veux que tu me racontes ta vie. Je veux que tu me racontes tes valeurs. Je veux que tu me racontes pourquoi tu as fait ces choix-là. Je veux que tu me racontes limite comment tu as grandi. Enfin, on va aller sur des questions assez perso. Ils sont pas obligés de répondre. Mais comme je m'entends bien avec eux, généralement, j'ai tous les détails. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est, du coup, je comprends. Je comprends pourquoi ils vont réagir comme ça. Je comprends pourquoi ils vont flipper sur ces moments-là. Je comprends pourquoi je vais aussi leur demander c'est quoi ta réaction au stress? Comment tu gères ton stress? Est-ce que tu es à l'aise avec ou pas? Enfin, voilà, c'est tous ces points-là assez tôt, du coup. Donc, c'est validation de période d'essai, où on va creuser tous ces éléments-là, et donc je les connais mieux. Il y a un truc là qu'on a refait, moi, avec mon équipe, c'est le test des 16 personnalités, tout le monde a dû faire déjà avec les petits bonhommes, là. Et ça, c'est pareil, en fait. Oui, il ne faut pas le prendre à la lecture à 100%, mais en fait, tu vas aussi comprendre des réactions, et donc c'est vraiment les comprendre. Donc, comprendre les drivers, les connaître. On a aussi quelque chose qui est très équipe chez Spendesk. On n'est pas du tout, je ne vais pas nommer de boîte, mais c'est de se dire à l'américaine où c'est un peu requin, où on est là pour se défoncer et aussi défoncer les autres par rapport à l'équipe. Chez Spendesk, ce n'est pas du tout ça, c'est venez, on va tous être en top performance. Donc, tu as vraiment ce truc d'équipe où tu vois, dès le début du mois, c'était ce matin, je leur ai envoyé, OK les gars, nouveau mois, on a 114 opportunités à aller chercher tous ensemble. Donc, moi, j'ai une quinzaine de personnes dans mon équipe. Donc, c'est aussi leur montrer le collectif.
C'est en plus fait, une moi, équipe de rugby qu'une équipe de foot, quoi.
Ouais. Je suis pas trop foot ni rugby, mais let's go.
Moi je suis plus basket, tu veux.
Ok, voilà. Bon, let's go. Et c'est de se dire, en fait, moi j'ai des top performers aujourd'hui. Je vais parler de Tom par exemple. Il va chercher l'overperf pour l'équipe et pour moi, très, très bizarrement, tu vois. Parce qu'il a ce truc d'appartenance, en fait. Je veux participer à l'effort collectif, je veux montrer que je suis là pour les autres. Donc il va être super content aussi d'être, on va dire, en tête. Parce que toutes les semaines, on a un chaos tout simplement de lancer, et en fait, on va dire le meilleur couleur, le meilleur prise de meeting, machin. Et ça, c'est pas grand chose. On met jamais les moins bons. Attention, on n'est pas là pour montrer du doigt, on est vraiment là pour pousser cette fame un peu. Ils adorent ça et ça les stimule aussi. Donc, ça aide aussi à pousser, tu vois, sur la motivation. Mais donc, ouais, c'est de se dire, t'as des drivers, t'as tes valeurs de boîte, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, est-ce que tu veux bosser pour l'équipe, est-ce que tu veux bosser pour l'individuel. Bien sûr, t'as les salaires, on t'en parlait dans un épisode, je sais plus quel, qui disait tous les sales sont là pour l'argent. Oui, mais pas que. Du coup, moi, je suis vraiment
sur ce début. Après, je pense que moi, je suis plus team. Je pense que je m'épanouis plus dans des boîtes américaines où je suis plus.
Requin, quoi.
Ouais, alors. Ça, c'est la manière très Frenchie de dire les choses. En fait, il va dire très compétitif, par contre. Enfin, c'est très Frenchie, tu vois, de dire requin. En fait, c'est une posture. On va dire très compétitif. Et le fait de, oui, tu vois, justement, quand je te parlais j'aime pas le foot, donc j'ai pris cet exemple-là parce que je sais que c'est déjà arrivé de parler avec des gens qui disent, voilà, nous, ce qu'on a envie, c'est des boîtes très collées. Et je trouve ça, en fait, ça marche, ça fonctionne, ce que tu es en train de raconter, ça marche très bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas à opposer des modèles, il y a juste, pense, comme tu dis, les drivers. Mais voilà, moi, je suis plutôt du genre, si tu me dis pas que je suis la meilleure, alors que je me suis défoncée pour être la meilleure, bon, la première semaine, je vais dire, OK, il y a l'équipe. Deuxième semaine, je vais dire, OK, c'est l'équipe. La troisième semaine, je dis, bon, écoute, t'es gentil, mais bon. Dis que je suis la meilleure, quoi. Ouais. Si je suis pas la meilleure, enfin, tu vois, genre.
Ouais. Ça, on le dit. On a même un truc dans l'open space avec, on a imprimé les photos de tout le monde et en fait, on a un peu la pyramide. C'est le mur de le mur du, de la fame, enfin je sais plus comment on l'appelait.
Le hall of fame, en fait, comme, tu vois, state, quoi. Okay,
ouais, c'est ça. Et tu vois, vraiment, on a ce côté-là aussi où on l'affiche, que ce soit sur des meetings, que ce soit sur nos murs. On a vraiment ce truc parce qu'on a des compétiteurs. La plupart, c'est des sportifs aussi. On sait souvent le lien entre le sport et, ouais, et la vente. Donc, ils veulent aller chercher aussi cette fame pour eux. Mais c'est pas de la fame au dépit.
C'est, en fait, c'est pour l'équipe et c'est pas ça, que pour l'argent, etc. En se disant, voilà. Et en fait, Adeline me disait ça, en fait, un petit peu, genre sur Spendesk, et je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, en plus, je suis de plus en plus convaincue là-dessus. Parce que c'est vrai qu'au final, quand tu regardes sur la durée et si tu regardes la data, c'est pas tes sales qui sont le plus intéressés par l'argent qui restent sur la durée. Et t'as quand même besoin de gens qui restent parce que, bah. Et du coup, ça me permettra de te poser une question juste après. Mais ouais, effectivement, je pense que t'as raison sur le fait que le salaire, ça fait, c'est bien, mais ça fait pas tout.
Et j'enlève pas le salaire, hein.
Ouais, bien sûr.
Dans tout ce que je dis, on a un modèle de comp qui te permet de péter des accélérateurs assez tôt quand tu overperf. Donc, ils y vont aussi pour ça. Et c'est ça, il y a différents éléments. Et je reparle de la gamification. Vraiment, ça nous a permis aussi de rebooster les troupes. Sur septembre, retour de vacances, assez dur de se remettre dans le mood. On a lancé un énorme jeu qui a rallié Bidi et AE sur 3 semaines. Ah, ça a explosé les scores d'activité, les mecs sont super contents, on a bien rigolé, enfin, donc il y a aussi ce côté fun qu'il faut aller chercher pour la partie.
Ouais, c'est la partie super dure. Je vais juste poser une question justement sur le, tout à l'heure je disais la question de la durée des BDR, de combien de temps il reste. Alors là, pour le coup, je vais opposer deux marchés différents. Il y a le marché français où, en fait, j'ai l'impression que les BDR ou SDR, peu importe, c'est un peu genre, voilà, c'est le passage obligé pour que je puisse aller au-dessus. Alors, soit monter une boîte, soit être un super sales. J'ai l'impression que ça dessert énormément, en fait, au final, la vente au global et la culture sales en même temps, je pense, en France. À l'inverse, marché que je connais,
les US, ils restent longtemps.
Ouais, ils restent longtemps. Et du coup, tu as des vrais experts, bah, un peu comme toi, qui, en fait, quand on parle, voilà, on voit... voilà, que t'es expert sur la partie BDR, que t'as tourné toutes choses dans tous les sens, tu sais exactement, en fait, qu'est-ce qui peut être un problème. Et ça, c'est l'expérience, tu peux pas l'avoir au bout d'un an. Toi, aujourd'hui, voilà, déjà, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est un problème? Est-ce que tu penses que ça allait pas? Et justement, comment tu fais pour faire en sorte que tes BDR, surtout tes pépites, j'imagine, restent le plus longtemps possible et leur donner la même vocation que toi, en disant, tu sais quoi, la prospection, ça peut être un truc très cool, quoi. T'es pas obligé d'aller forcément sur le closing.
C'est le plus frustrant, vraiment, parce qu'effectivement, à peine arrivé, ils nous disent déjà c'est quoi le carrière pass, comment je vais pouvoir évoluer. Et c'est exactement ce que tu as dit. Pour eux, c'est juste un passage obligatoire, c'est un tremplin pour partir AE, CAM, CS, enfin, pas forcément CS chez nous, c'est plutôt on va viser les AE et les CAM. Et du coup, pour rajouter sur la partie motivation, le carrière pass fait partie aussi de ça. C'est de se dire comment tu construis le carrière pass avec ton gars et que tous les 4 mois, on refasse un plan. T'en es où? Qu'est-ce qui te manque comme skills? Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu as changé d'avis? Donc, c'est cette projection. Parce que chez Spendesk aussi, on prône vraiment cette mobilité interne de on a un talent, on garde 15 ans sur et il va changer de poste, il va changer de service. Je suis exactement comme toi sur cette frustration de c'est un beau métier, pourquoi vous voulez partir aussi vite? Et en plus, personnellement, pour moi, c'est un métier qui apporte tellement que je trouve ça trop triste, entre, enfin, pas trop triste, mais vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas cette vision. Aux States. Après, je pense que je connais pas assez le job et les conditions de travail aux States pour comprendre pourquoi il reste autant. Chez nous, je le vois aussi, nos gars sont cramés d'énergie au bout d'un an et demi.
Alors, je pense
et
que
cette répétitivité, tu vois, ouais, dans la récurrence du call, etc., est super fatigante aussi.
Alors, tu as raison, et en plus, également de challenger ça, c'est que parfois, on compare en fait des modèles qui sont différents. Il se trouve qu'aller chercher des rendez-vous en fait aux US, c'est complètement différent. Et voir là, par exemple, je suis sur un marché européen, je suis sur l'Italie et l'Espagne en ce moment, ça n'a rien à voir. Faire du call-call en Italie, c'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est genre, tu vois, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas le même accueil. Donc, du coup, en fait, les discussions sont plus intéressantes et du coup, tu t'épuises moins. Donc, tu l'as dit, le mot, c'est aussi un marché où, en fait, du coup, bah, je pense qu'il y a la culture, mais il n'y a pas que. Il y a peut-être justement le fait de peut-être mieux travailler les approches et qui fait que ça déride un petit peu plus les prospects. Je vois, par exemple, que quand tu étais sur des cibles peut-être plus scale-up, je te le dis parce que là, j'ai fait une mission, ouais, j'ai fait une mission vraiment BDR, du coup, d'aller chercher pour un client qui veut tester un nouveau segment.
Sur quel marché, du coup ?
Alors, sur le marché du recrutement.
Enfin, en France ?
En France.
Okay.
Et donc, du coup, j'ai fait ça en France et je me suis rendu compte que le segment scale-up, C'était super cool, genre, écoute, là, tu m'appelles sur mon téléphone perso, j'ai dû rire des trucs comme ça, genre, je sais que c'est pas ta faute, etc. Mais écoute, voilà, écoute, envoie-moi un mail, je te promets que je te réponds. Et j'ai eu vraiment des réponses. Et puis, à l'inverse, des gens où c'est, ouais, tu te dis, punaise, c'est compliqué, quoi. Genre, tu dis, putain, enfin, justement, ce que tu disais avant, il faut vouloir faire du call au bon moment. Donc, du coup, tu vois, je pense que c'est ça qui fait que les gens sont cramés. Donc, je pense qu'il y a ce travail-là que tu fais sur la partie approche, je pense que ça peut vachement aider. Et peut-être, tu vois, aller encore plus loin sur la gamification, comment tu peux être le gars qui travaille sur les meilleures approches. Et je pense qu'aussi aux US, il y a beaucoup de partage de contenu. On en a parlé également. C'est que ce qui est difficile des gens qui ont des tafs comme toi, c'est qu'ils ont énormément de choses à dire, mais peu de temps pour faire du contenu. Je le sais parce que quand j'étais head of sales, j'aurais jamais pu faire ce podcast en réalité. Pas le temps. Mais du coup, tu vois, ça partage pas. Et alors qu'aux US, tu vas avoir des BDR qui vont partager en fait leur mail en disant oh, putain, je me suis vraiment fait envoyer balader pour ça. Écoutez les gars, n'utilisez pas ça. Ou en fait, j'ai fait ça, etc. Et du coup, ça fait des battles en dehors de ta boîte et ça fait des battles, etc. Donc c'est culturel, mais voilà. Peut-être qu'on va y arriver.
Ça peut être le. Nous, on a essayé de le faire chez Spendesk sur des Slack où les BDR envoient des captures d'écran, envoient même des calls où ils se sont foirés. Enfin, on essaie vraiment de partager un peu ce truc de réussite et à la fois d'échec.
Trop
déjà
bien.
Pour démystifier l'échec, tu vois. Et effectivement, ce truc de tester ces trucs. Mais ouais, c'est une très bonne question. Et je sais pas si t'as
J'ai pas de réponse. Et je pense que, en fait, tu vois, là, ce qui se passe un petit peu où j'ai l'impression que de plus en plus, parce que. Faut pas oublier en plus que depuis longtemps, les gens qui parlaient de sales aujourd'hui, c'était des marketeurs en France, c'était pas des sales. Là, de plus en plus, en fait, c'est des sales qui parlent de sales, et donc du coup, qui vivent vraiment ça au quotidien et qui sont sur le terrain. Du coup, on a eu toute la phase, on est encore un peu dedans où les gens racontent pas vraiment la vérité et parce qu'ils veulent se mousser et dire qu'ils sont super forts. Et puis, maintenant, tu commences à avoir des gens qui commencent à dire ok, voilà un peu la réalité, voilà ce que je fais. Et du coup, tu vois, petit à petit, je pense qu'on arrive à un truc où, du coup, t'as un transfert de. T'as un transfert d'informations, t'as du challenge, les gens se disent c'est super cool, ça valorise le métier. Et voilà, ce sera long, mais je pense qu'on y avance, quoi.
Mais c'est intéressant. Je pense qu'on a eu moins de partage que les pays, notamment les States, parce que je pense qu'on a commencé la vente technique en France bien plus tard.
C'est vrai.
La vente en France, pendant 100 ans, c'était t'as du bagou, t'es un mec qui tchatch et c'est tout. Et du coup, qu'est-ce que tu veux écrire là-dessus comme contenu, quoi. En fait, c'est pas de technique. Et en fait, toutes les techniques sales aujourd'hui, elles viennent des States, et qu'on a reproduit, qu'on a traduit. Mais ça fait pas longtemps, je pense, qu'on a aussi quelque chose de concret à partager. C'est un peu dommage.
Je suis complètement d'accord. Et puis en plus, des choses un peu plus adaptées à la France, parce que je pense que, tu vois, on n'est pas des Américains. Donc voilà. Je vais te poser une dernière question, parce que pour moi, ça sera l'introduction peut-être à une prochaine discussion, j'en sais rien, mais je pense que c'est important. C'est qu'aujourd'hui, tu manages pas que. On a beaucoup parlé de BDR, donc de gens qui sont sur le terrain, mais tu manages aussi des managers. Et ça, c'est un peu, quand on a une boîte assez mature, la step. Je sais que c'est pas suffisamment évident parce que toi, tu as appris plein de trucs, tu as plein de techniques, mais comment tu arrives à faire en sorte que, du coup, la personne qui est manager junior arrive à retranscrire les mêmes choses parce que tu peux plus gérer tout le monde en direct et donc du coup tu dois démultiplier Margot, quoi. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un, parce que je pense que c'est des conseils qui pourraient servir à la fois au CEO qui doit déléguer en fait la vente, à la fois du coup au head of sales qui doit dire c'est bon, t'es plus le champion du monde, il va falloir que tu laisses d'autres personnes gérer. Comment tu fais, quoi?
Je pense que c'est ce que tu dis dans ta réponse, c'est comment tu laisses d'autres personnes gérer. Et en fait, j'essayais avant de démultiplier Margot, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et ça, moi, je le bosse beaucoup avec mon propre boss. Donc, c'est aussi un nouvel apprentissage de comment tu apprends à manager des managers. Enfin, vraiment, c'est en fait, tu rajoutes un... Et le but, c'est pas qu'ils fassent avec eux ce que moi, j'ai fait avec mes BD, c'est qu'ils le fassent à leur sauce, mais qu'on arrive au même objectif.
Yes.
C'est hyper dur, j'apprends vraiment encore tous les jours, mais c'est plutôt cette position de coach, de poser des questions, de savoir ce qui s'est passé. C'est un peu ce que je vois aussi avec mes seniors. Ça, j'y ai pensé tout à l'heure quand on parlait des simulations et des suivis de call. Avant, j'allais en call avec eux, avec le client. Et en fait, j'étais là juste peau de fleur, je note mon bidi, je prends des notes sur
en
lui
shadow,
et après en débrief, en shadow. Et en fait, je me suis dit, j'arrête parce que déjà, je perds du temps. Et en fait, quand je suis là, mon bidi, il n'est pas très à l'aise, il n'est pas comme s'il était. Propre maître de son rendez-vous. Donc maintenant, j'y vais plus du tout et je fais que du mojo, one again. Enfin bref. Et c'est de se dire, je te laisse en fait faire tes trucs et puis on en parle après. Et bah, c'est pareil avec mes managers, c'est par contre, bah, pareil, on a des one-one qui sont hyper cadrés avec je veux ta data, je veux ton forecast, je veux les plans d'action qui sont en cours avec tes mecs, je veux savoir ce que tu es en train de faire, pas pour fliquer, mais pour savoir est-ce que tu es sur les bonnes priorités aussi. Et en fait, souvent, et ça peut-être, ça peut être un conseil, ce que je vois moi avec du coup Nathan et Alex, c'est souvent, c'est des problématiques de quelle est la vraie prio, en fait.
Yes.
Et souvent, ils se dispersent sur plein de trucs, c'est pas du tout. Pourquoi tu es en train de faire ça? C'est pas du tout, sous le feu, c'est pas du tout. Et donc, c'est souvent revoir les agendas, l'orga, la priorisation. Parce qu'en fait, le taf, ils savent le faire. Souvent, nous, nos managers, c'est des anciens BD, donc en plus, ça, c'est plus facile aussi. Mais c'est plutôt, ouais, comment tu priorises. Souvent, ils arrivent à détecter les éléments qui fonctionnent pas chez leur BD, mais ils n'arrivent pas à le mettre en place sur des plans d'action. Et surtout, ils font des plans d'action, mais ils ne font pas des plans de contrôle. Donc, c'est se dire, OK, tu as fait ton plan d'action, à quel moment tu vas vérifier que ton gars, il a fait ton plan d'action? Et qu'est-ce qu'on met derrière? Parce que peut-être qu'il l'a fait, mais en fait, ce n'est pas suffisant, donc on devra refaire un plan derrière. Donc, c'est vraiment ce truc, c'est priorité et plan de contrôle qui sont pour moi les deux points sur lesquels, aujourd'hui, je dois le faire le plus attention pour leur niveau.
Trop bien. Eh bien, écoute, c'est parfait. Eh bien, écoute, merci énormément. Tu as partagé énormément de valeur sur cet épisode. Tu m'as aidé aussi pas mal sur pas mal de choses. Donc, cool. Du coup, voilà. Écoute, bah, merci énormément. Et je souhaite un super quarter pour Spendesk et que tu exploses tes chiffres. Merci énormément.
Trop bien. Merci beaucoup, Lisa. C'était très cool.
Ciao,
merci
ciao.
Beaucoup. Au revoir.
C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.